Alors, vous parlez également de mots couperets, ceux que vous appelez les phobes et les sceptiques. Et c'est quoi la différence entre un phobe et un sceptique?
En fait, ce qui est intéressant, c'est pas tellement de voir la différence entre un neurophobe et un neurosceptique, même si c'est vrai que j'ai fait tout un développement là-dessus. C'est surtout de voir justement dans quelle mesure ce sont des mots pièges. C'est une expression de Laurent Fides, ou des mots chocs. L'expression est d'Olivier Reboul. En tout cas, effectivement, ce sont des mots qui n'ont rien à faire dans la bouche du journaliste, parce que ce sont des mots qui sont difficiles à définir. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui met en garde contre l'utilisation de ces mots. Donc, ce sont des mots de militants. Ce sont des mots qui sont polémiques et qui donc ne sont pas neutres.
Alors parmi les expressions, il y a des expressions qui ne sont pas neutres, on sait tous que le langage n'est jamais neutre, mais il y a aussi la naissance d'oxymores. On parle d'extrémistes modérés.
Oui, alors ça c'est dans un passage où je parle plus spécifiquement d'un mot qu'on entend beaucoup dans l'actualité, qui est le mot islamiste. Et le problème de ce mot-là, c'est que ce n'est pas un mot de spécialiste, ce n'est pas un mot de théologien ni d'islamologue, c'est un mot de commentateur, et donc notamment de journaliste. Et donc de même qu'on a inventé la différence entre islam et islamisme, qui est déjà très difficile à appréhender, de même après on s'est mis à nous parler d'islamistes modérés, d'islamistes extrémistes, ou d'islamistes radicaux. Alors un islamiste, c'est déjà un musulman radical, donc qu'est-ce qu'un islamiste radical? Serait un musulman radical, radical. Enfin, vous voyez que là, on accepte sans cesse que les médias nous servent un discours plein de concepts qui sont complètement insaisissables.
Est-ce que c'est une manière de camoufler ou de détourner la réalité?
Alors là, il faut supposer une intention mauvaise chez le journaliste. Et je pense que dans la plupart des cas, en fait, il fait surtout attention à ce qu'il dit parce qu'il est sans cesse dans l'anticipation de la réception. C'est-à-dire qu'il a très peur que, s'il dit les choses d'une certaine manière, le public pense que. Et il a peur que nous ayons de mauvaises pensées. Donc il va, d'une certaine manière, nous manipuler, mais toujours avec une parfaite bonne conscience et toujours pour la bonne cause.
Alors, c'est s'il a peur que nous ayons de mauvaises pensées, au fond, c'est qu'il n'est pas dans un rôle d'informateur, là, il est dans un rôle d'éducateur.
Exactement. Moi, c'est ce que j'appelle le glissement de l'éthique du vrai à l'éthique du bien. C'est-à-dire que sa priorité n'est pas de nous donner l'information, ça va être de nous la donner d'une certaine manière pour que, surtout, nous n'allions pas avoir une mauvaise interprétation des faits, si vous voulez. Et là, on est totalement dans une manière d'appréhender l'information qui est de type idéologique.
Alors, nous allons prendre un exemple concret qui me paraît très illustratif et un discours récent, puisque je crois que ça date de septembre 2015 sur France Inter. C'est l'affaire des réfugiés, le fantasme de l'infiltration terroriste. Ça, je crois que c'était le premier titre de la journaliste. Et puis ensuite, petit à petit, il y a eu un glissement sémantique. On est revenu en arrière, mais pas tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail cette affaire?
Effectivement, Géraldine Allot a fait sur le site de France Inter un article qui s'appelle « Réfugiés, le fantasme de l'infiltration terroriste ». Et elle explique dans un chapeau introducteur qu'il n'y a pas à avoir peur d'une infiltration terroriste parmi les réfugiés et à une phrase du genre « Faut-il craindre une infiltration terroriste ?» Non, et on vous dit tout de suite pourquoi. Et puis, après les attentats du 13 novembre, il s'est avéré que certains des terroristes avaient, comme ils disent pudiquement à la radio, emprunté la route des réfugiés. Et donc, la rédaction de France Inter, avec ou sans l'accord de Géraldine Allot, on ne saura pas, a changé le titre de l'article et reformulé le chapeau introducteur. Et donc, c'est devenu « Des terroristes parmi les migrants ?» point d'interrogation. Voilà. Et le « Non, il n'y a pas à avoir peur et on vous dit tout de suite pourquoi » a complètement disparu. Et donc ce sont des sites de la réinfosphère, comme on dit, qui ont déniché cet article. Et ce qui s'est passé, c'est très intéressant, c'est la manière dont les journalistes ont absolument enterré cette affaire. Je cite la matinale de France Info, dans laquelle Christian Estrosi donc, dénonce la transformation de l'article au micro de Fabienne Sintès, qui l'interrompt tout de suite. Donc on est sur France Info. Hein, et elle lui dit « Vous réglerez ça avec France Inter et nos amis de France Inter restent nos amis de France Inter. » Or, Géraldine Allot est aussi sur France Info, donc déjà c'est gênant. Et puis, on voit bien qu'il n'est pas question d'engager un débat sur l'éthique du journalisme. La dimension déontologique de la chose qui aurait pu faire débat, qui aurait pu faire un scandale, légitimement même parmi les autres journalistes, il n'était pas question d'en parler.
d'une certaine manière, et dans ce cas précis en tout cas, on pourrait parler de journalistes manipulateurs. Mais est-ce que les journalistes ne sont pas les premiers manipulés ?
Effectivement, Pierre Bourdieu le disait déjà dans un très intéressant essai sur la télévision. Il dit que plus on étudie le discours des journalistes, plus on se rend compte que s'ils sont manipulateurs, c'est d'abord parce qu'ils sont manipulés. Et c'est pour ça que moi je fais bien la différence entre la manipulation et l'orientation du discours. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus dangereux dans leur discours, ce ne sont pas les exemples les plus caricaturaux, bon, même si j'en donne beaucoup dans mon livre, c'est les petits détails. Et là je donne aussi beaucoup d'exemples. Par exemple, on s'habitue à entendre des informations du type « tel pays applique encore la peine de mort ». Bon, le petit « encore », il témoigne à la fois d'une orientation idéologique, mais même d'une lecture, d'une croyance dans un sens de l'histoire préécrit. Donc, ce genre de petits adverbes, on ne doit pas les accepter comme neutres, vous voyez. Donc, ce sont tous ces petits détails, des formulations, des manières de dire, des reformulations auxquelles il va falloir être très attentif pour ne pas se laisser orienter par un discours orientant.